Bienvenue dans ce nouvel épisode de Scully et compagnie, histoire de bibliographe. Aujourd'hui, Scully va entendre parler d'un récit de voyage bien mystérieux. Le titre de cet épisode est « Le périple ? Ah non !» Bonjour Scully, comment vas-tu ?
Ça va, je regarde des vieilles cartes du monde.
Ah oui ? Ah, ça me fait penser à un texte. Le périple d'Anon.
Le périple Anon ?
Ah, le périple d'Anon, le périple de Anon. Anon était un suffète carthaginois.
Un quoi ?
Ah, c'était un magistrat. Le suffète, c'est un magistrat phénicien du temps où Carthage était une grande cité.
D'accord. Donc, le texte s'intitule « Le périple d'Anon ». Entendu. Mais c'est quoi ce texte ? Un récit de voyage ? Un texte de géographie ? Un mythe ?
Oh, ce texte a suscité tant de commentaires qu'il faudrait rédiger au moins 10 pages de bibliographie ou préparer une centaine de notices sur Zotero pour tout répertorier.
D'accord. C'est un texte très étudié. Mais pourquoi, toi, tu t'es intéressé à ce texte ?
Tout a commencé par une demande de collaboration. Des collègues qui travaillent sur un texte de mythographie de la Renaissance nous ont demandé de clarifier des références étranges à des textes de l'Antiquité dans un livre d'un certain Conti. Ce livre de Conti servait en quelque sorte de dictionnaire de la mythologie antique gréco-romaine à la Renaissance. Avec mes collègues du groupe Ecdotech, comme tu sais, nous sommes connus comme analystes de sources de l'Antiquité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait appel à nous. Nous sommes faits pour mener des enquêtes sur les textes, leur histoire et leur transmission. Or là, dans plusieurs passages du livre de Conti, il y avait des références erronées. Alors on s'est répartis entre nous les différentes références. Et moi, j'ai choisi cette citation dont Conti disait explicitement qu'elle venait de l'ouvrage « Navigation libyque » d'Arien.
Arien, ce nom me dit quelque chose. C'est le même que celui qui a écrit les Entretiens d'Épictète ?
Oui, tout à fait, tu as raison. Arien est un historien romain qui a écrit en grec. À la fois disciple du stoïcien Épictète, il a écrit les Entretiens d'Épictète, il a été aussi haut magistrat et général romain. Et il a effectivement écrit des récits de voyages et d'expéditions, des périples. Alors, par exemple, il y a le périple du pont Euxin. Bon, mais il a aussi écrit, rapporté le récit de l'expédition d'Alexandre le Grand dans l'Anabase. Mais si Arien donc a bien écrit un ou même des périples, la citation utilisée par Conti ne vient pas d'un texte d'Arien.
Comment tu sais ? Tu as lu tous les livres d'Arien pour chercher la citation ?
Ah, d'abord, je me suis fondée sur le travail des collègues qui ont fait la liste des passages problématiques dans le livre de Conti et qui m'ont dit ne pas avoir trouvé le passage dans le livre d'Arien. Puis, j'ai fait ce que l'on appelle de la lecture distante.
C'est quand tu tends tes bras en tenant un livre ?
Mais non, tu tends pas tes bras pour lire un livre, sinon tu prends des lunettes. Non, quand tu fais de la lecture distante, tu es à distance de ton texte, mais grâce à un outil.
Je sais, c'est une roue à livre.
Mais non, c'est pas ça non plus. Laisse-moi t'expliquer. La lecture distante, ou distant reading, désigne la manière que l'on a depuis quelques années d'explorer les textes grâce à toutes sortes d'outils numériques. Dans notre cas, j'ai utilisé cet outil absolument extraordinaire que l'on appelle entre collègues le TLG. Le TLG, c'est un acronyme pour Thesaurus Linguae Graecae. On pourrait dire c'est le trésor de la langue grecque, pour reprendre l'expression du collègue Aurélien Béra. Alors le TLG, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une base de données qui rassemble tout ou presque tous les textes grecs antiques et qui te permet de faire une recherche de mots au sein d'un ou de plusieurs textes, d'un ou plusieurs livres, disons, ou simplement une recherche de mots ou de groupes de mots dans tout le corpus du TLG, c'est-à-dire dans toute la base de données. C'est une sorte de bibliothèque des textes grecs antiques. Alors, figure-toi qu'au tout début, le corpus était édité et vendu sur un CD-ROM. Je ne sais pas si tu connais cet objet, le CD-ROM. Et une fois qu'on avait inséré le CD-ROM dans le tiroir, il fallait utiliser un petit logiciel dans l'ordinateur pour pouvoir faire des recherches sur ce CD-ROM. Et les recherches prenaient plusieurs minutes et parfois une heure. Aujourd'hui, il y a un site payant et ce site te permet de faire toutes sortes de recherches en un temps très court.
D'accord. Donc, tu as fait une recherche sur le TLG. Mais qu'as-tu cherché exactement? Comment as-tu fait?
Eh bien, j'ai fait une recherche à l'aide de deux mots tirés de la citation pour voir dans quel texte du corpus du TLG ces mots apparaissaient.
Et?
Eh bien, je suis tombée sur un extrait d'un texte long de quelques paragraphes. Ce texte est intitulé « Périple d'Annon ». Alors, je précise, le texte est connu sous le titre, en un seul bloc, « Périple d'Annon ». On n'a pas d'un côté auteur Annon, virgule, en italique le périple, mais le titre est bien « Le périple d'Annon ». Et j'ai découvert que ce texte non seulement n'a pas d'auteur, mais qu'en plus, ce qu'il contient est problématique à plusieurs égards.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce possible? Un texte qui n'a pas d'auteur?
Ah, évidemment, oui, c'est un peu bizarre un texte qui n'a pas d'auteur, mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une distinction entre le nom de celui ou celle qui est considérée comme créateur ou créatrice du texte, donc c'est le nom d'auteur sous lequel le texte a été transmis, et c'est parfois le nom de celui ou celle à qui on l'attribue, et qui souvent accompagne le titre. Mais parfois, il y a un nom d'auteur qui ne correspond à personne. Parfois même, c'est un même texte qui peut être attribué à un auteur par un tel, et à un autre auteur par un tel. Alors, entre nous, dans le groupe Ecdotech, on appelle cela la controverse d'attribution. En fait, il ne faut pas oublier qu'un livre est toujours le résultat d'une histoire, celle de sa réception et de sa transmission matérielle et intellectuelle, disons.
Si le périple d'Annon n'est pas d'Annon, qui l'a écrit alors? Et de quoi parle ce texte?
Alors, je vais rentrer un peu dans les détails. Le périple d'Annon est considéré comme le premier texte de récit d'expédition maritime qui nous soit conservé en grec. Il relaterait le voyage que firent Annon et ses hommes, ainsi que les futurs colons, attention, 30 000 hommes et femmes, tu te rends compte, embarqués sur 60 pentecontors, des énormes navires arabes. Toutes ces personnes vont naviguer le long de la côte africaine. Quant au trajet exact de l'expédition, il y a deux hypothèses. L'hypothèse la plus généreuse, c'est-à-dire avec le trajet le plus long, c'est un départ depuis les côtes du Maroc actuel jusqu'aux côtes actuelles du Cameroun. Ou sinon, il y aurait, deuxième hypothèse, un trajet plus court. Ce serait une expédition entre le Cap Noun, depuis le Maroc, jusqu'à la Mauritanie.
Mais c'est une expédition qui a réellement eu lieu ?
Ah, ça c'est une des multiples questions que l'on se pose. Est-ce qu'on a affaire à un récit fantasmatique ou à un rapport de voyage authentique ? En tout cas, au tout début du texte, on peut lire la chose suivante. Périple d'Annon, roi des Carthaginois, le long des parties de la Libye situées au-dessus des colonnes d'Héraclès, suspendu par lui dans le temple de Cronos, ce périple expose ce qui suit. Alors, il faut savoir que la Libye, à l'époque, ça désigne la côte ouest africaine, voire l'Afrique tout entière. Donc, ce long titre, cette introduction presque, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça nous dit que le texte grec serait la traduction ou l'adaptation du périple écrit en phénicien sur des tablettes accrochées dans le temple de Cronos à Carthage par Annon lui-même après le voyage. Alors, ce qui est frappant, c'est que ce texte a été transmis plus tard dans des éditions de textes de géographie. Il y a par exemple un recueil imprimé au XIXe siècle par Müller qui s'intitule « Géographe grec mineur » ou « Petit géographe », donc le titre à l'époque est en latin, et dans ce recueil, on trouve notamment le périple d'Annon. On désigne en fait là un ensemble de textes de géographes grecs anciens qui nous sont parvenus par différentes traditions byzantines, entre les 6e, 7e siècles et les manuscrits des 9e, 14e siècles. Et on dit géographe mineur ou petit, par différence avec les géographes grecs majeurs, comme Strabon et Ptolémée. Eux, ce sont les grands géographes. Or, Annon n'est pas un géographe.
Mais il était quoi?
On l'a vu tout à l'heure, c'était un suffète, c'est-à-dire un général, un magistrat, c'est difficile à dire. Si tu consultes la Reale Encyclopédie, une encyclopédie allemande sur l'Antiquité, tu trouves 27 notices consacrées à Annon. C'est-à-dire que d'après les textes de l'Antiquité que nous avons, on peut distinguer 27 personnes différentes portant le nom de Annon. Nous, notre Annon à nous, est dans la 26e notice. Il est présenté comme un homme qui a du pouvoir, qui fut amiral, et qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. On peut lui donner un nom avec épithète pour le distinguer des autres Hannon. On dira en français Hannon le navigateur et on précisera celui qui a voyagé en Afrique. Donc, tu comprends bien que ce n'est pas un géographe, mais le texte qu'on lui attribue raconte une expédition maritime le long de la côte ouest africaine. On trouve plusieurs descriptions et des repères. Par exemple, les colonnes d'Hercule, c'est la manière antique de désigner le détroit de Gibraltar. Il y a aussi des descriptions d'îles. On est plongé dans une atmosphère comparable à celle du début de King Kong. Sont mentionnés des animaux, des alligators, des hippopotames. Il est question de montagnes en feu. Alors, c'est probablement un volcan auquel il est fait référence. On nous parle aussi de gorilles. Et puis, la scène finale est très cruelle. Et chacun des éléments de ce texte a engendré des discussions infinies parmi les spécialistes. Alors, selon Blomqvist, le périple d'Hannon serait le document punique le plus long que nous ayons, c'est-à-dire aussi le seul rapport d'expédition maritime d'une grande civilisation maritime. Le périple d'Hannon offre ainsi une description unique de la côte ouest africaine dans l'Antiquité. L'Antiquité, ça signifie bien avant les premières descriptions réalisées par les Portugais au Moyen-Âge. Et cette description sera attentivement étudiée par les géographes qui ne sont pas les seuls à s'intéresser à ce texte.
Ah bon ? Mais qui lit ce texte ?
Oh, toutes sortes de savants de différentes disciplines étudient ce texte. Les historiens, les philologues, les archéologues, les ethnologues et même des militaires. Par exemple, un commandant qui s'appelle Monsieur Maire a publié en 1885 un mémoire sur le périple d'Hannon. Un spécialiste de l'Afrique durant la période de l'Antiquité, qui fut à la fois historien, philologue et épigraphiste, Jehan Desanges, explique dans sa thèse qu'il y a eu une foule de tentatives depuis 2 siècles pour identifier et localiser les escales de l'expédition d'Hannon. Moi, je me suis intéressée à la transmission de ce texte et à quelques interprétations de certains savants. Une des questions posées par les savants est celle de savoir si ce texte est véritablement la traduction grecque ou le résumé en grec d'un périple d'abord écrit en phénicien. Et bien sûr, on se demande si ce récit rapporte une expédition qui a réellement eu lieu. On a cru jusqu'au milieu du XXe siècle environ que ce récit était authentique, c'est-à-dire que ce texte serait bien la traduction en grec d'un récit rédigé d'abord en phénicien. Même Montesquieu, le grand Montesquieu, celui qui a écrit l'Esprit des lois, Montesquieu pensait qu'Hannon était un grand général qui avait non seulement fait ce périple, mais surtout qu'il avait rédigé ce texte et l'avait accroché dans le temple de Cronos à Carthage. On s'est aussi demandé si un tel voyage était possible à cette époque-là, étant donné les vaisseaux et les techniques de navigation. Certains avaient voulu démontrer que, techniquement, ce voyage était impossible. Mais on s'accorde aujourd'hui sur le fait qu'on savait naviguer en tirant les bords pour remonter le long de la côte ouest africaine. Cependant, même si techniquement le voyage est possible, surtout pour les Carthaginois, ce peuple de grands marins et de grands navigateurs, il reste que les arguments linguistiques et certains éléments textuels conduisent les spécialistes de la langue grecque et les historiens à dater ce texte du 2e siècle avant Jésus-Christ ou même du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ce texte a d'abord été écrit en grec, il a toujours été écrit en grec, ça n'est pas une traduction d'un texte phénicien, et il serait inspiré par d'autres récits de voyage ou de géographes.
Oui, mais alors, pourquoi le considérer comme un texte de géographie si tout est faux ?
Oh, tout n'est pas faux. Il y a assurément des éléments fantastiques dans ce texte, mais d'autres éléments décrivent des lieux véritables. Et c'est surtout parce que ce texte a très tôt été rassemblé avec d'autres textes clairement géographiques dans des collections de textes et des bibliothèques anciennes qu'on le considère comme un texte géographique. Et d'ailleurs, c'est une ancêtre à toi, Scoli, qui nous permet de reconstituer cela.
Une Scoli antique ?
Peut-être bien.
Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette Scoli ?
Alors, il faut d'abord qu'on situe le texte dans lequel on trouve cette Scoli. C'est un peu compliqué. Attends. D'abord, on a des traces, des mentions, si tu veux, du périple d'Hannon dans d'autres textes. Par exemple, il y a un ouvrage qu'on a attribué à Aristote, mais en fait, ce n'est pas du Aristote. Cet ouvrage s'appelle « Les histoires extraordinaires ». Et ce texte date probablement du 2e au 1er siècle avant Jésus-Christ et il mentionne le périple d'Annon comme source de faits extraordinaires rapportés. Dans d'autres textes, soit de lettrés ou sophistes ou encore d'historiens comme Pline, on mentionne Annon et son périple comme récits fabuleux. Par exemple, Athénée, l'auteur des Deipnosophistes, écrit que lors d'un banquet, l'un des convives, Démocrite, met en doute le témoignage de Juba II. Juba II fut roi de Numidie, puis de Maurétanie. Il était érudit, homme de lettres, très curieux, et il s'intéressait entre autres à la botanique. Donc, Juba II a apporté un témoignage sur le citronnier. Démocrite ne le croit pas et s'écrie « Oh, qu'il aille se promener avec ses livres sur la Libye et autres errances d'Annon !»
Donc le texte était connu. Mais est-ce qu'on a des manuscrits de ce texte ?
Très bonne question, Scoli. Alors, le périple d'Annon est transmis par le codex de Heidelberg. Sa référence, c'est manuscrit Heidelberg grec 398. Et ce manuscrit contient une compilation de textes géographiques. Et il appartient lui-même à un corpus de textes philosophiques attentivement étudiés depuis quelques décennies. Autrement dit, c'est un groupe de manuscrits byzantins qui date du 3e quart du 9e siècle. Et le contenu de ce groupe de manuscrits est principalement philosophique et platonicien. Donc parfois, on pourra parler de la collection platonicienne, mais le plus souvent, on dira la collection philosophique pour désigner ce groupe de manuscrits. Or, il existe une allusion au périple d'Annon dans un autre manuscrit datant de la même période que la collection philosophique. Ce manuscrit contient un texte d'Elius Aristide, qui fut rhéteur ou orateur, si tu préfères, et membre de ce qu'on appelle la seconde sophistique. Elius Aristide fait dans son texte une allusion au périple d'Annon. Je lis cette allusion. Les navigateurs carthaginois qui sont allés au-delà de Gadeïra et qui ont fondé les villes qui se trouvent dans les parties inhabitées de la Libye n'ont pas rapporté ce type de récit une fois rentrés chez eux. Ils ne l'ont ni mis par écrit ni déposé dans le temple après avoir écrit plusieurs choses extraordinaires. Alors, dans ce passage des discours d'Elius Aristide, on voit une allusion très claire au périple d'Annon. Et cette allusion est faite à la manière sophistique, c'est-à-dire qu'on utilise des négations dans le discours pour dire le contraire de ce que l'on semble dire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le manuscrit, dans la marge à côté de ces lignes, il y a une scoli qui dit que là, l'auteur fait référence au périple d'Annon. Selon le philologue Briante, on a de très bonnes raisons de penser que cette scoli au texte d'Aristide est de la main du scoliaste Arétas de Césarée, qui fut disciple de Photios, un grand lettré byzantin du IXe siècle. Cette scoli attesterait ainsi de la circulation des textes regroupés dans ces corpus au IXe siècle.
Ah, mais alors, grâce à cette scoli, on peut dater le texte du périple d'Annon ?
Oui, c'est exactement cela, scoli. Et il est peut-être même possible de remonter encore dans le temps pour essayer de dater l'origine de ce corpus de textes géographiques. Pour Didier Marcotte, on peut ainsi envisager que la constitution du corpus géographique remonte au VIe siècle après Jésus-Christ, au moment où se constitue la collection philosophique dans les milieux néoplatoniciens. Autrement dit, ce sont notamment dans les écoles de philosophie qu'ont été constitués des recueils de textes afin de les étudier.
Pfiou ! Des philosophes qui étudient des textes de géographie ? C'est bizarre, non ?
Pas vraiment. À cette époque, et depuis Aristote en fait, il y a chez certains et certaines philosophes, et dans certaines écoles de philosophie, une volonté de classer et répertorier des documents, des données on dirait aujourd'hui, et on répertorie ces documents dans différents champs du savoir, botanique, politique, géographie.
Mais pour le périple, on en a terminé alors ?
On a presque terminé, Scoli. Attends, encore un peu de patience. Ce texte est aussi remarqué parce qu'il contient la première et unique apparition du mot grec « goriai ». Je te lis un court passage de la fin du texte. C'est le paragraphe 18. Dans l'enfoncement se trouvait une île, semblable à la précédente, contenant un lac à l'intérieur duquel il y avait une autre île, pleine d'hommes sauvages. Beaucoup plus nombreuses étaient les femmes. Elles avaient le corps velu et les interprètes les appelaient gorilles. Dans la poursuite, nous ne pûmes nous saisir des mâles. Tous nous échappèrent, car ils escaladaient les lieux escarpés, tout en se défendant. Mais des femmes, nous en saisîmes trois, qui, mordant et griffant ceux qui les entraînaient, ne voulaient pas les suivre. En conséquence, les ayant tués, nous les écorchâmes et rapportâmes leur peau à Carthage. Car nous ne naviguâmes pas plus avant, les vivres étant venus à nous manquer.
Oh là là, c'est affreux la fin de ce récit. Hannon et ses camarades sont vraiment cruels.
Oui, tu as raison, Scully. Et ce n'est pas la seule chose frappante dans ce passage. Et d'ailleurs, ce passage, il y a beaucoup de choses à dire dessus. D'abord, c'est de ces quelques lignes dont se sont inspirés des naturalistes pour créer le terme « gorigne » pour désigner une certaine sorte de grand singe, tel « savage ». Et d'autres naturalistes se sont ensuite penchés sur ce texte et ont considéré qu'Hannon, ainsi que ses compagnons et compagnes de voyage, avaient dû plutôt voir des chimpanzés ou peut-être des orangs-outans. Pourquoi ? Eh bien parce que le gorille est plutôt pacifique, tandis que les autres espèces de singes sont plutôt agressives. Puisque le gorille n'est pas agressif, celui qui est décrit dans le périple ne lui correspond pas.
Mais alors Hannon et ses compagnons et compagnes qu'ont-ils vu ? Des singes ? Des gorilles ?
D'autres spécialistes ont considéré qu'il ne peut s'agir ici de grands singes, mais bien d'humains, décrits comme des personnages terrifiants et agressifs. D'autres études encore ont avancé des arguments linguistiques et se sont penchés sur ce terme gorillas et l'ont comparé avec un mot wolof. Alors, parmi toutes ces études linguistiques, celle de Babacar Diop Bouhouba permet de souligner la parenté entre deux termes wolof, golo et gohor, le premier signifiant singe, le deuxième homme. Diop Bouhouba évoque deux interprétations possibles. La première est celle formulée autrefois par Carcopino, qui fut l'un des premiers à aborder la piste wolof et pensait que la comparaison pertinente ici est celle avec le terme gohor, qui signifie donc qui évoque le mâle. Jehan des Anges avait repoussé cette interprétation au profit de celle de l'erreur de copie. Et oui, comme tout être humain, le copiste peut faire une erreur lorsqu'il recopie un texte à partir d'un autre manuscrit. Ici, le copiste aurait écrit Gorillas, donc gorille, au lieu de Gorgadas, Gorgade. Or, Babacar Diop Bouhouba explique que l'on peut mettre en parallèle soit Gorillas et Goriyaï, soit Gorgadas avec l'expression wolof, Gorgadi, qui peut signifier un homme assurément. Autrement dit, quelle que soit la bonne version du texte grec, hein, que ce soit Gorillas ou Gorgadas, on peut mettre chacun de ces termes grecs en rapport avec des mots ou des expressions wolof. Si l'on opte pour le parallèle entre Gorillas et Goriyaï, la signification serait
« Maman, des hommes !»
Et quelle que soit la leçon retenue finalement, on a deux constantes, nous dit Diop Bouhouba. Je cite un passage de son étude. La première constante, c'est qu'on désigne des êtres humains. La seconde est très intéressante parce qu'elle ouvre une perspective qu'on n'avait pas encore exploitée jusqu'à présent. Il pourrait s'agir de femmes de cette région de l'Afrique de l'Ouest qui exprimeraient leur surprise et leur crainte face à des hommes inconnus. Renversement de perspective donc. Il ne s'agirait plus de Carthaginois qui auraient rencontré des monstres, mais des femmes ouest-africaines qui auraient manifesté leur résistance face à des explorateurs pas bien intentionnés à leur avis. Donc ici, ce que souligne Babacar Diop, c'est qu'on doit entendre la terreur qu'ont dû ressentir les habitantes de cette île lorsqu'elles virent arriver Hannon et ses compagnons. Elles se sont écriées
« Des hommes !»
face à des agresseurs. Si l'analyse de Babacar Diop Bouhouba suggère que le barbare n'est pas celui que l'on croit, Christian Jacob fournit quant à lui une analyse anthropologique quasi linéaire du périple d'Hannon et souligne que ce texte, puisqu'il n'est pas un récit véridique, peut être abordé comme un document profondément grec. On y trouve tous les éléments du récit de voyage exotique fascinant, avec la rencontre finale entre Grecs soi-disant civilisés et d'autres supposés barbares. Pour terminer à propos de ce terme de gorillas, les dernières études philologiques insistent sur l'erreur de copie. Le manuscrit porte Gorillas au lieu de Gorgadas. Cela confirmerait que l'on a affaire à un récit qui mêle des observations issues de voyages et d'enquêtes avec des récits fantastiques issus des mythes et croyances répandues en Grèce, notamment lorsqu'il est question des Gorgades.
Eh bien, je ne savais pas qu'on pouvait dire autant de choses sur un texte aussi court.
Ah, figure-toi que même l'écrivain Flaubert, au XIXe siècle, connaissait le périple d'Annon. Il l'a sans doute lu lorsqu'il se documentait en préparant l'écriture de son roman Salammbô qui se passe à Carthage. Dans une lettre à Sainte-Beuve de décembre 1862, il écrit « Dès le début, je vous arrête à propos du périple d'Annon, admiré par Montesquieu et que je n'admire point. À qui peut-on faire croire aujourd'hui que ce soit là un document original ? C'est évidemment traduit, raccourci, échenillé et arrangé par un grec. Je vous dirais même entre nous que le périple d'Annon m'est complètement odieux pour l'avoir lu et relu avec les 6 dissertations de Bougainville dans les mémoires de l'Académie des inscriptions, sans compter maintes thèses de doctorat, le périple d'Annon étant un sujet de thèse. » Voilà la fin de la lettre de Flaubert. Donc tu vois, Scoli, on peut même faire une thèse sur le périple d'Annon.